Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi au rôle du collectif citoyen sur la vaccination avec cette question, est-il autre chose qu'un gadget ?
Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population.
C'est du foutage de gueule, enfin, franchement, il n'y a plus de conseil des ministres, il n'y a plus l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question de la pandémie. Et là, on met 35 citoyens pour faire croire qu'on fait un peu de démocratie.
La façon dont on déploie un programme de vaccination est aussi importante que l'efficacité de la vaccination elle-même.
Réfléchir collectivement à l'échelle de la société sur quelle stratégie adopter plus tard, quelle valeur à faire prévaloir, ça me paraît être absolument nécessaire.
C'est un très bon exemple de démocratie participative, de démocratie sanitaire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, sur un sujet qui fait autant débat que la vaccination, quand est-ce qu'on pourra mettre en place ce type de dispositif de consultation citoyenne ?
Nous avons des experts, il y a un comité scientifique autour de Macron. Tout le monde aujourd'hui va dans la direction d'une campagne de vaccination. Franchement, je suis pas sûr que ces 35 volontaires ou ces 35 personnes tirées au sort vont nous apporter grand-chose.
Le professeur Fischer a donné son accord pour échanger à intervalles réguliers avec la commission temporaire et le collectif citoyen sur la méthodologie à mettre en place et l'articulation des travaux et pour discuter sur le fond du sujet que pose la stratégie vaccinale.
Le collectif citoyen sur la vaccination est-il autre chose qu'un gadget ? C'est donc la question au programme du temps du débat ce soir, alors que les 35 citoyens tirés au sort se sont retrouvés pour la première fois aujourd'hui au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui encadrera ses travaux. C'était une promesse d'Emmanuel Macron et de la réforme récente de la 3e Chambre de la République. Il s'agit d'éviter le procès en manque de transparence et contourner la méfiance vaccinale qui préoccupe beaucoup l'exécutif. Comme la Convention citoyenne pour le climat avant lui, la mise en place de ce collectif citoyen doit montrer que le président de la République associe donc les citoyens à sa politique, que leur participation ne s'arrête pas aux élections. Son rôle, faire remonter la parole citoyenne, assurer la préparation puis le suivi de la vaccination grand public en lien avec le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale piloté par le professeur Alain Fischer. Mais la démocratie participative et singulièrement la démocratie sanitaire ont encore du mal à convaincre. Les critiques se sont multipliées, reprochant à l'exécutif de fuir ses responsabilités, de court-circuiter la représentation nationale ou simplement d'instrumentaliser et de dévoyer la démocratie participative. Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce soir. Muriel Jourda, bonsoir. Muriel Jourda, bonsoir.
Bonsoir Raphaël. Bon.
Vous êtes sénatrice Les Républicains du Morbihan et vous avez justement émis des doutes vous sur ce collectif citoyen sur la vaccination et plus largement sur la démocratie participative qui viendra court-circuiter la démocratie représentative. On est également par téléphone avec Laurent Chambeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, directeur de l'école des hautes études en santé publique, le HESP, et spécialiste de la démocratie sanitaire. Alors si vous n'êtes pas tout à fait hostile, par principe, loin de là, avoir participé les citoyens aux politiques sanitaires, vous vous interrogez sur les conditions dans lesquelles ce collectif citoyen a été créé. Et enfin ici, en studio à Paris, Jean Grosset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau du CESE, vous êtes même le questeur du Conseil économique, social et environnemental qui encadre, comme je le disais, les travaux de ce collectif sur la vaccination. Et vous êtes à ce titre, évidemment, favorable à cette initiative et plus largement, avoir le CESE occuper une place plus importante comme chambre de la participation citoyenne. Alors, je commence avec vous, Jean Grosset, si vous le voulez bien. Pourquoi vous semble-t-il important que ce collectif citoyen soit constitué et qu'il puisse donc donner son avis sur une stratégie vaccinale qui est plutôt l'apanage du gouvernement ou à la limite des scientifiques ?
Merci de votre invitation, mais... Un petit rappel avant de rentrer dans ce sujet particulier. Le CESE est déjà une vaste assemblée de citoyens. Les organisations qu'il compose, 83, doivent représenter 25 millions de femmes et d'hommes engagés. Donc on a déjà fait un bout de chemin. La deuxième chose après, quelle que soit la question, nous l'avons fait sur fracture et transition au moment des Gilets jaunes, nous l'avons fait sur la Convention citoyenne, nous l'avons fait au moment du Ségur de la Santé avec le collectif interhospitalier, chaque fois que nous pouvons élargir la consultation, pour que nos avis soient plus qualifiés et plus pertinents en direction des pouvoirs publics et des élus, nous le faisons. Donc, si on focalise sur ce collectif et qu'on lui trouve des pouvoirs exorbitants, on parle de gadget. Si on le laisse à sa place, qui est simplement une remontée d'un certain nombre de citoyens pour contribuer à faire des recommandations, c'est quelque chose de normal. Et vous savez, je terminerai par ça. Cette question d'associer les citoyens aux élus est une question qui nous vient de l'Antiquité. Donc c'est pas une nouveauté. Et doit-on, alors que il y a des difficultés très importantes, les dernières élections municipales, le taux moyen de participation est 25%. Doit-on attendre tous les 5 ans pour discuter avec les citoyens? Mais j'ai remarqué d'ailleurs que des élus dans les communes de droite et de gauche font des conseils citoyens. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel vient de remettre un avis composé de femmes et d'hommes de divers partis français. Il nous donne raison. Il considère que ce que nous faisons est conforme à la Constitution et qu'au contraire, pour remettre des avis pertinents, il faut donc que le Conseil consulte les citoyens afin de qualifier ses avis.
Alors Muriel Jourda, qu'est-ce qui vous semble problématique dans cette démarche ?
Moi, je ne suis absolument pas hostile à la démocratie participative telle qu'elle est pratiquée en local. Parce qu'elle a l'avantage en local de parler aux gens de leur vie quotidienne, de ce dont ils peuvent avoir un avis. Au niveau national, il me semble évidemment pas en contradiction avec l'avis du Conseil constitutionnel, mais que malgré tout, c'est une façon de contourner la Constitution qui prévoit comment s'exerce la démocratie au niveau national. Soit c'est le référendum, et on demande l'avis de tous les citoyens, ce qui me paraît une bonne chose sous certaines conditions, soit c'est la démocratie représentative, au suffrage direct et indirect, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui, je le rappelle, tout comme le CESE, sont des assemblées de citoyens. Bien évidemment, ce sont des citoyens qui sont élus par les autres. Donc tout ça me paraît tout à fait bien prévu par la Constitution, qui prévoit par ailleurs que le contrôle du gouvernement, parce que c'est ça que doit faire ce comité, le contrôle du gouvernement se fait par les assemblées, et elles le font, comme chacun peut le constater assez régulièrement. Et puis, si je puis me permettre un autre propos, la raison pour laquelle je reste assez dubitative sur cette démocratie participative, c'est qu'elle sépare deux choses qui pour moi sont inséparables, qui sont le pouvoir et la responsabilité. Lorsqu'on a du pouvoir, on doit en répondre. Alors vous me direz que ces assemblées ou ces comités sont consultatifs. Pour autant, quand on leur demande leur avis, ils pensent véritablement qu'on va le suivre, autrement ça ne sert à rien. Et d'ailleurs le président de la République l'avait bien compris, puisque dans la Convention citoyenne pour le climat, il avait indiqué que finalement ce qui serait décidé, il le ferait. Or, devant qui répondent ces gens qui ont un avis et qui demandent à ce que leur avis soit suivi? Devant personne. Ce qui n'est pas le cas des élus qui, eux, répondent devant tout le monde. Et enfin, et j'en finirai là pour ne pas monopoliser la conversation.
Oui, surtout que nous avons 50 minutes, donc vous aurez le temps de reprendre la parole, Muriel Jourda. Mais je vous en prie, terminez.
Eh bien, il me semble que ces personnes ne représentent qu'elles-mêmes, tout simplement, et qu'on est bien loin de la démocratie. Lorsqu'on demande à 35 personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes d'avoir des avis qui pourraient peut-être se transformer en décision pour 67 millions de personnes. Et en disant cela, je précise que je reprends aussi le propos d'un membre du CESE que j'avais pu auditionner assez récemment.
Jean Grossier, une réponse peut-être.
Oui, simplement, c'est étonnant d'opposer ce qui se passe dans les communes et les départements au national sur le plan démocratique. Ça nous joue de très mauvais tours. Parce qu'un seul coup, on se réveille en se demandant que pensent les citoyens du niveau national. Moi, je pense que bien évidemment, ces citoyens, j'étais membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, émettent un point de vue à un moment donné. La décision revient aux élus, élus au suffrage universel. Mais je ferai remarquer, ce débat, il a eu lieu, je renvoie les auditeurs, au débat de la Révolution française sur les jurés d'assises.
Il n'y avait pas de radio à l'époque, donc...
Qu'est-ce qu'on disait? Comment ces va-nu-pieds vont-ils pouvoir oser décider des décisions de justice avec des magistrats? C'est le fond du problème. C'est le fond du problème. Permettons à des gens, quel que soit leur niveau, de participer à des décisions publiques, mais en restant à leur place, en disant c'est aux élus de décider. C'est un élément de démocratie.
Alors Laurent Chambaud, je rappelle que vous êtes médecin, directeur de l'école des hautes études en santé publique et que vous avez spécifiquement travaillé sur cette question de la démocratie sanitaire. Il y a donc la question politique, de la responsabilité, telle que viennent de le décrire Muriel Jourda et Jean Grosset, avec des avis différents. Mais il y a aussi la question, évidemment, de l'expertise qui se pose dans ces questions-là. Et c'est ce qu'on entend beaucoup. Comment des citoyens peuvent-ils émettre un avis sur des questions aussi compliquées? Est-ce que, selon vous, par exemple, ce collectif associé des citoyens sous cette forme de collectif qui conseille, c'est la bonne méthode, Laurent Chambeau?
D'abord, merci de votre invitation. Je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode pour que la démocratie puisse se développer, et notamment la démocratie en santé. Mais il y a probablement un ensemble d'éléments. Dans ce contexte, moi, ce que je vois, c'est que le fait de pouvoir avoir, alors moi, je ne parlerai pas d'un échantillon représentatif, mais d'un panel de citoyens, pour permettre de donner un certain nombre d'avis, de conseils sur la façon de déployer cette campagne de vaccination n'est pas une mauvaise chose. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est d'une part comment ces avis vont être utilisés. Donc là, il y a probablement un enjeu de méthode dans ce contexte-là, mais peut-être que le CESE a des éléments précis sur la façon dont ça va être élaboré, dont ces avis vont être élaborés dans le cadre de la plateforme qu'ils sont en train de mettre en place. Ce qui peut-être m'inquiète plus, c'est comment la démocratie en santé se développe dans notre pays. Parce que le fait de mettre en place une plateforme comme celle-là ne doit pas faire oublier que depuis maintenant la fin des années 90, on est en train d'essayer lentement, et je dirais même parfois péniblement, de construire la démocratie en santé avec de nombreuses institutions. Et dans le contexte que nous vivons depuis maintenant plus de 10 mois, il me semble que toutes ces structures, alors c'est la Conférence nationale de santé, les conférences régionales de santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé, ont été mis entre parenthèses. Et ça m'interroge parce que je ne pense pas qu'on peut faire une bonne démocratie en situation de crise si par ailleurs on n'a pas des institutions solides pour consolider cette démocratie en santé.
Alors Jean Gros, c'est peut-être une réponse justement sur comment vont être appliquées ces recommandations, et signaler aussi que il y a une plateforme sur le CESE ouverte à tous les citoyens, ça, on peut y aller pour donner son avis sur la vaccination. Alors on a déjà l'application, vous me direz que c'est peut-être un peu tôt dans l'émission, mais comme c'est une question que se posait également Muriel Jourda, qui insistait à juste titre sur le fait que la Convention citoyenne pour le climat, ça a été problématique, la façon dont ces 150 recommandations ont été reprises par le politique, et ça a peut-être même été contre-productif dans cette question de l'association des citoyens aux politiques publiques.
Alors, deux choses. Je partage ce que vient de dire M. Chambeau, complètement. Et deuxièmement, vous faites allusion à la Convention citoyenne. La Convention citoyenne a émis 149 propositions. En ce qui concerne le CESE, moi j'avais des interrogations sur le sans-filtre. Bien. Mais cela étant, ces propositions qui ont été faites, je vais revenir après, je ne m'égare pas de mon sujet, rassurez-vous. Ces propositions qui ont été faites n'étaient pas des inventions. Le Haut Conseil pour le climat avait travaillé, plein de gens avaient travaillé. C'était simplement à un moment donné un indicateur de ce que pensaient 150 personnes qui travaillaient sur cette question. C'était un indicateur. Mais c'est aux politiques de décider. D'autant plus que cette convention avait travaillé dans un contexte particulier. Elle doit d'ailleurs regarder ce qui a été retenu ou pas retenu. Il y a la loi sur le climat qui est en train d'être proposée et qui va être proposée aux parlementaires. C'est les parlementaires qui décident. Donc, je veux dire, mais vous savez, il y a trois courants de pensée là-dessus, je vais revenir. Il y a des gens qui sont totalement hostiles à la participation citoyenne, que je considérerais plutôt conservateurs en France. Il y a des gens qui considèrent que, et que c'est pas nouveau, c'est très ancien, ce courant de pensée, qu'on a retrouvé au moment de la Révolution française d'ailleurs. Il y a des gens qui considèrent que c'est le nec plus ultra. Et ça, c'est totalement le populisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'élus, et c'est hostile au suffrage universel. Et il y a enfin des gens, c'est plutôt là-dessus qu'on se situe, au Conseil économique, social et environnemental, où on pense que si on augmente la démocratie, ça renforce le suffrage universel. À ce sujet, comment ça va travailler? Mais il y a 83 organisations au CESE. Lorsqu'il y a eu le confinement, nous faisions remonter tous les 15 jours au Sénat, à l'Assemblée nationale, à Matignon, à la présidence de la République, à M. Castex qui s'occupait du confinement, ce que pensaient ces 83 organisations. Donc il y a cette commission temporaire, mais qui va travailler avec des représentants de ces 83 organisations. Et l'intérêt du Conseil, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est que ces organisations, qui peuvent se combattre dans la société, elles trouvent des compromis au Conseil. Nous sommes partisans du compromis. Nous sommes partisans sur une question aussi dure, aussi dangereuse, aussi difficile que cette épidémie, que des femmes et des hommes représentant des organisations différentes trouvent des compromis. Donc c'est un lieu neutre, indépendant, qui n'a pas décidé d'être en opposition permanente avec le gouvernement, quel qu'il soit, et qui travaille avec ses citoyens pour leur permettre de conforter leur jugement et de faire remonter avec cette commission temporaire les meilleures recommandations au gouvernement.
Et oui, Muriel Jourda, parce que cette commission et ce conseil, il s'inscrit aussi dans une question qui nous agite, et évidemment, agite le débat public depuis quelques semaines, c'est la question de la vaccination et de comment contourner la méfiance supposée des Français vis-à-vis de la vaccination et donc associer la parole citoyenne, associer les préoccupations citoyennes, n'est-ce pas la bonne façon de le faire selon vous?
Écoutez, encore une fois, 35 personnes sur 67 millions de Français, vous parliez de gadget, c'est véritablement
c'est pas
gadget,
moi, oui, c'est la critique que j'ai reprise tout à fait pour titrer l'émission, oui.
C'est ça, vous en parliez dans votre titre, c'est au-delà du gadget, je veux dire, ça devient de la démagogie que de laisser penser, eh ben oui, regardez, on va vous associer, vous allez voir, enfin, la meilleure façon de satisfaire la population, c'est pas forcément d'associer 35 personnes, c'est d'avoir quelques résultats. Enfin, on en est là aussi, parce que me semble-t-il, je ne parle pas pour ce gouvernement particulièrement, il y a peut-être une certaine inefficacité des politiques publiques et de ce fait, ça crée un certain mécontentement. Mais je persiste quand même à penser que lorsqu'on veut avoir du poids sur les décisions, lorsqu'on veut s'engager, mais la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui le permet. Nous avons 550 000 élus en France. Ça nous est souvent reproché, trop d'élus. Mais ça veut dire qu'il y a 550 000 personnes qui sont capables de peser sur la décision publique, puisqu'ils ont la décision publique entre leurs mains, au niveau local, et puis s'ils s'engagent au niveau national, tout simplement. Donc, le fait est que je trouve que ça met à mal nos institutions, et c'est pour cela d'ailleurs qu'au Sénat, nous n'avions pas accepté d'inscrire dans une loi organique, c'est-à-dire une loi qui découle de la Constitution, le fait que cette démocratie citoyenne, enfin, on l'appelle de nom flatteur, mais en réalité, ça n'a rien de flatteur que ce système soit inscrite clairement dans la loi. Nous l'avions refusé parce que, en réalité, aujourd'hui, on la considère que comme un gadget et rien d'autre. Et je ne vois pas en quoi ces 35 personnes vont améliorer la gestion de cette vaccination qui est mauvaise. Bon, mais ça, c'est un autre sujet.
Débat. Il y en a eu beaucoup sur cette interview. Vous vouliez ajouter quelque chose, Muriel Jourda?
Non, ça ne s'improvise pas tout ça. Il y a des spécialistes. Hein. Je pense que même si les experts nous ont donné une image assez compliquée, on va dire, pendant cette pandémie, puisque tout le monde venait s'exprimer sur les plateaux télé ou à la radio, pour autant, il y a des spécialistes, et on a des spécialistes de la logistique en France aussi pour l'organiser. Je ne suis pas sûr que le citoyen lambda soit meilleur que les spécialistes. Interrogeons-les.
Alors justement, un spécialiste, on en a un, Laurent Chambeau, médecin et spécialiste de la démocratie sanitaire. Cette question du lien direct finalement entre l'exécutif et les citoyens, et qui viendrait court-circuiter à la fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui représentent, les instances qui représentent les médecins, les spécialistes des questions médicales et la représentation nationale. Est-ce que, malgré tout, c'est plus efficace? Vous qui avez pu étudier différentes manifestations de cette démocratie directe, est-ce que ça vous semble plus efficace de passer comme cela quand il s'agit, par exemple, de convaincre la population d'accepter un traitement tel que la vaccination ou une vaccination?
D'abord, je pense qu'il faut surtout pas opposer les deux formes de démocratie parce qu'elles sont indispensables l'une et l'autre. La démocratie représentative, elle joue un rôle fondamental et elle joue un rôle fondamental dans notre pays, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Ce type de démocratie participative, il existe en France depuis moins longtemps que beaucoup de pays autour de nous. Et c'est probablement un élément à regarder. Et il a été lancé en France de façon forte, principalement lorsqu'il y a eu l'irruption du sida et les associations d'usagers qui se sont mobilisées dans ce contexte-là. Et il a permis lentement de développer en France une démocratie participative, avec le développement des instances dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est, si on peut parler d'efficacité, mais je parlerai surtout de capacité à développer une démocratie dans notre pays. Ça doit reposer sur les deux pieds. Et lorsqu'on n'a qu'un pied, c'est beaucoup moins efficace pour marcher. Donc, c'est probablement cela, je pense, qu'il faut surtout essayer de consolider. Et encore une fois, pas uniquement en temps de crise, mais de manière générale. Et par rapport à cet aspect dont vous avez parlé sur l'intérêt de cette conférence dans le cadre particulier de la vaccination contre la Covid et de ce à quoi nous assistons en ce moment, mon sentiment c'est qu'il a été principalement élaboré parce que le pouvoir politique avait une crainte, et qui était une crainte qui pouvait se justifier fortement, d'avoir une très très forte méfiance en France sur la vaccination. Avec en plus un certain nombre de sondages qui montraient, mais depuis plusieurs années, cet ancrage de la méfiance dans notre pays et des professionnels de santé et de la population. Et donc, c'était, je pense, une manière d'essayer de rompre cette méfiance, et ça pouvait se comprendre. La difficulté, en tout cas, les éléments que l'on voit actuellement montrent que le positionnement des Français face au vaccin est très fluctuant, est en train d'évoluer de façon extrêmement forte et de manière positive.
Justement, puisqu'il évolue, vous faites sans doute référence à ce sondage, sondage Odoxa Backbone qui a été publié par Le Figaro et par France Info le 14 janvier, jeudi dernier, et qui montre que 56% des Français veulent désormais se faire vacciner. C'est 14 points de plus qu'un sondage il y a à peine un mois. Ça montre qu'il y a une grande fluctuation, évidemment, Jean Grosset, sur cette question. Donc, faut-il vraiment articuler cette stratégie à partir de cette crainte des anti-vax ou même de la méfiance vis-à-vis de la vaccination? On a vu d'ailleurs que dans la mise en place de la stratégie vaccinale, c'est probablement ce qui a causé ces retards qu'on déplore aujourd'hui. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne donne pas trop la parole? Est-ce qu'on n'apporte pas trop d'attention à la parole de ceux qui se méfient?
C'est un autre sujet que je vais aborder, si vous le voulez. Je suis encore d'accord avec M. Chambourg.
Oui, en même temps, c'est quand même un peu le même sujet, parce que c'est là-dessus qu'a été fait ce Conseil citoyen. C'est autour de l'axe, êtes-vous pour ou contre le vaccin?
Pas seulement. Excusez-moi de vous dire ça. D'abord, je suis d'accord avec M. Chambourg, il y a deux jambes. Je pense exactement ce qu'il vient de dire. La deuxième chose après, c'est que le rôle du Conseil économique, social et environnemental, on ne peut comprendre cette commission, ce collectif, qu'en relation avec le CESE. Je rappelle que dans les organisations qu'ils composent, vous avez des syndicats, des agriculteurs, des ONG, des professions libérales, des jeunes, vous avez tout le monde. Tout le monde. Bon. L'objet n'est pas de rentrer dans le débat vax, anti-vax ou pas. C'est pas ça la question. La question qu'on pose au CESE, comme on l'a posée au moment du Ségur de la santé, comme on l'a posée au moment de la fin de vie, comme on l'a posée sur les travailleurs détachés, sur la fonction publique, c'est quel est l'avis que propose le CESE qui représente une forme particulière dans la société, qui est la société civile organisée. Tiens, ces organisations, je vous ai parlé. Mais d'ailleurs, ce que a dit Madame Jourda à l'instant est très intéressant. J'étais au débat, moi, au débat au Sénat. Un membre de son groupe a expliqué ce qu'il pensait réellement du CESE.
Donc c'était lors de la loi organique.
Il a expliqué exactement. Moi, je pense que, en fin de compte, un certain nombre de parlementaires pensent que le CESE est inutile. Faut se parler franchement. Que la réforme est inutile. Combien de fois nos avis ne sont pas repris? Alors que quand une loi est proposée, on le retrouve sur le bureau d'un ministre. Donc, la discussion n'est pas... Le travail qui est fait là n'est pas sur la méfiance. Il est fait sur quelles sont les meilleures conditions, avec des remontées de terrain de 83 organisations, de fondations, d'associations qui sont dans notre quartier, qui remontent les remontées de terrain pour qu'on aboutisse à ce que, justement, les gens pensent qu'il faut se faire vacciner. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait par la méfiance. C'est sur d'autres sujets. Au moment des gilets jaunes, on a fait quelque chose sur Génération Nouvelle. L'ascenseur social était en panne. On a tiré une commission temporaire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas sur cette question particulière. Et quand on parle de gadgets, derrière, il y a autre chose. C'est une vieille tradition française de ne pas avoir accepté forcément que la société civile, c'est le même problème pour la démocratie sociale et les syndicats. Combien de fois les syndicats passent-ils des accords positifs et combien de fois sont-ils détricotés au Parlement? C'est la même question. Donc oui, je pense que ce n'est pas une réaction à la méfiance, c'est un élément supplémentaire pour que les choses se passent bien et que tout le monde soit associé.
Question de dialogue social que vous connaissez bien, Jean Grosset, puisque vous en occupez notamment la Fondation Jean Jaurès, je crois. Absolument. Une réponse, Muriel Jourda, à ce qui vient d'être dit. Méfiance d'abord vis-à-vis de la parole citoyenne et vis-à-vis justement des syndicats ou de toute cette ce qu'on appelle les corps intermédiaires, finalement.
Non, je ne crois pas. Et pour reprendre une expression qu'a utilisée Monsieur Grosset tout à l'heure, que je ne partage pas, mais c'est, le fond de sa pensée n'est pas de dire qu'il s'associe à cette idée. Il n'y a pas de méfiance à l'égard des va-nu-pieds, puisque c'est l'expression qu'il a reprise. Encore une fois, les élus sont aussi issus de la société civile. Enfin, arrêtons aussi de séparer tout le monde et de penser que les élus sont coupés du monde. Après, le CESE, effectivement, a une légitimité, moi, que je ne conteste pas, celui de la société civile organisée. Ce qui me paraît tout à fait contestable, c'est le fait effectivement de piocher dans la société française des gens qui ne sont pas vraiment tirés au sort. On pourra y revenir, hein, ça n'est pas, il n'y a pas de tirage au sort réel. On essaye de faire des panels représentatifs, mais alors qu'il y a des organisations dans lesquelles les gens sont élus et encore une fois responsables. Bon. Après, la méfiance va-t-elle vraiment disparaître au motif que 35 personnes vont être associés à des travaux. La méfiance de toute la population française ou de ceux qui disent nous n'irons pas nous faire vacciner, je n'en suis pas sûre, parce qu'on a une méfiance qui est effectivement liée en France, de façon assez étrange d'ailleurs, à une méfiance générale vis-à-vis des vaccins. On a une méfiance qui est liée aussi, et celle-là peut-être plus discutable, au fait que ce vaccin a été développé très vite alors que on sait qu'un vaccin met des années à être développé. Et puis on a une méfiance qui est liée à quantité d'éléments que je ne vais pas développer sauf si vous me le demandez, sont des éléments de gestion de la pandémie par le gouvernement qui n'ont pas été de nature à mettre les Français en confiance. Et encore une fois, cette association de quelques personnes ne me paraît pas de nature à y mettre fin. D'autres pays ont fait autrement, hein, notamment en développant des campagnes de communication scientifique sur la vaccination. Ça me paraît autrement plus efficace.
Laurent Chambeau, juste une réponse à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'on n'a pas confondu hostilité et méfiance vis-à-vis de la vaccination ? Est-ce que, en choisissant de faire de la confiance ou non dans la vaccination, l'un des axes pour la sélection, après évidemment tirage au sort, de ce conseil citoyen sur la vaccination, est-ce qu'on n'a pas poussé un petit peu trop loin, encore une fois, l'importance qu'on accordait à cette question?
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'était probablement un élément majeur parce qu'il y avait des craintes très fortes au début au vu de ce qui se passait depuis plusieurs années sur l'attitude des Français vis-à-vis des vaccinations en général. Maintenant, on a encore une fois une situation qui est évolutive et de façon très 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 rapide, et aussi à cause de ce que nous vivons depuis 10 mois. L'hostilité par rapport au vaccin en général était liée à des choses qui étaient construites depuis longtemps, et là on a une situation qui est quand même inédite que nous vivons comme le monde entier. Et dans ce cadre-là, les éléments qui présidaient à une méfiance ou une hésitation vaccinale sont en train de se bonifier très rapidement. Donc oui, je pense que si le panel n'est utilisé que pour regarder ces aspects de méfiance, on aura loupé quelque chose. Par ailleurs, si je peux peut-être donner un élément aussi qui me paraît important. Je crois qu'il faut pas non plus se centrer, il faut pas être trop jacobin non plus, il faut pas se centrer uniquement sur les dispositifs nationaux. Je crois que ce qui est important, si vraiment on veut mettre en place quelque chose qui soit ancré dans notre pays, dans les territoires, il faut utiliser aussi tous les relais régionaux et locaux. Et c'est pour cela que je dis vraiment qu'il faut surtout pas opposer les deux. Tous les élus ont un rôle majeur à jouer pour que cette campagne vaccinale soit réussie, à la fois en termes de méfiance et d'hésitation pour ceux qui l'ont encore, mais aussi en termes de capacité opérationnelle à mettre en place cette vaccination. Et la plupart sont déjà prêts à jouer ce rôle-là. Mais par ailleurs, ils ont aussi un rôle d'explication. Il faut à tout prix informer le plus possible et à travers tous les canaux que l'on peut et qui, qui permettent que le débat soit vraiment un débat honnête sur les connaissances scientifiques que l'on a actuellement.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
France Culture, il est 18h40 et la question du temps du débat du samedi ce soir, le collectif citoyen sur la vaccination est-il autre chose qu'un gadget? On en parle avec Muriel Jourda qui est sénatrice Les Républicains du Morbihan, avec Laurent Chambaud qui est médecin et directeur de l'école des hautes études en santé publique et avec vous Jean Grosset, membre du bureau du CESE, le conseil économique, social et environnemental. Un mot peut-être sur cette question du tirage au sort puisque ça a été abordé notamment par Muriel Jourda. Comment s'est fait ce tirage au sort? Muriel Jourda disait qu'il n'y a pas vraiment de tirage au sort.
D'abord, ce qu'on appelle tirage au sort, c'est que vous avez une liste de personnes, ce qui se fait pour la Convention citoyenne que j'ai mieux suivi que le collectif citoyen, vous avez une liste de personnes, un numéro de téléphone que vous appelez, et vous... Ce n'est pas un tirage au sort strict, mais il y a un équilibrage de panel qui est le suivant. C'est que vous faites en sorte d'avoir une représentation femme-homme, territoire, y compris les DOM, niveau de qualification professionnelle, classe d'âge. Donc vous avez tout ça qui fait que vous avez un panel citoyen.
Bien, ça c'est habituel, mais là il y a eu aussi cette question de pour ou contre la vaccination.
Non, ça n'a pas été cette question pour ou contre la vaccination.
Dites-nous, parce que c'est ce qui a quand même été beaucoup...
Ça n'a pas été une question pour la vaccination, et je crois qu'il y a eu une réflexion qui a été faite. Vous feriez-vous vacciner, ne feriez-vous pas vacciner, ainsi de suite. Pourquoi? Nous avions réfléchi à partir de la Convention citoyenne. Un reproche qui avait été fait en disant, le tirage au sort, avec une lettre du Premier ministre, qui était comment répondre à la question de l'émission de gaz à effet de serre dans un cadre de justice sociale. Et on nous avait fait un énorme reproche en disant « Mais si vous faites ça sans discernement, vous n'avez que des pros lutte contre le gaz à effet de serre et vous n'avez pas respecté que dans la Convention citoyenne, les climato-sceptiques puissent y être. » D'accord ? Donc, instruit de cet exemple, il paraissait normal qu'un panel reflète un certain nombre de points de vue de la société française. Mais encore une fois, ce que vient de dire M. Chambaud est tout à fait juste. Ce n'est qu'un élément de la réflexion. L'objet n'est pas d'un collectif contre la méfiance, excusez-moi, mais que ce collectif existe ou pas, que le vaccin existe ou pas, la méfiance vis-à-vis des élus politiques est considérable. Je le déplore. Dans le monde entier. L'exemple de Trump nous l'a démontré. Et l'exemple en Allemagne nous l'a démontré. Dans le monde entier. Donc ce n'est pas le CESE ou un gadget du collectif citoyen qui est responsable du fait qu'il y a 25% des gens qui votent presque dans toutes les élections municipales. Que c'est une catastrophe sur le plan de l'abstention. Et je suis un défenseur vraiment acharné du suffrage universel. Donc je veux dire simplement que le travail qui est fait n'est pas un travail sur la méfiance. C'est un travail sur, au fur et à mesure, quand bien même il n'y aurait pas cette méfiance. Je vais jusqu'au bout. Mais il faudrait travailler avec le CESE. Au moment du confinement, c'est très intéressant. Nous avions ces remontées de terrain, pourquoi? Pour contribuer à l'intérêt général, à aider. C'est intéressant d'avoir une fondation qui travaille dans les quartiers, comment ça se passait le confinement? Un syndicat de salariés, comment ça se passait dans une usine? Un syndicat d'employeurs, comment ça se passait dans le bâtiment? Des professions libérales, c'est fondamental de remonter ça. Donc ce n'est pas sur la méfiance qu'on travaille, c'est sur comment réussir dans un cadre d'intérêt général à ce que la vaccination nous permette de redémarrer l'économie et que des gens arrêtent d'aller dans des services de réanimation. Donc c'est pas la méfiance qui nous préoccupe.
Muriel Jourda.
Oui. La méfiance, oui. Alors, je ne sais pas comment a été constitué ce panel citoyen, mais je suis d'accord avec Monsieur Grosset sur le fait qu'en réalité, ce n'est pas ça qui va mettre fin à la méfiance. Moi, ce qui me pose un problème dans l'ensemble de ces démarches de démocratie participative, de participation citoyenne plutôt. Pourquoi plus en local qu'en national, disait tout à l'heure Monsieur Chambaud. Parce qu'en local, on parle aux gens de choses qu'ils connaissent et sur lesquels ils peuvent avoir un avis. Au national, c'est bien plus compliqué. Il faut un niveau d'information extrêmement élevé. Et non seulement il y a un biais dans ces conventions citoyennes ou dans ces panels sur la façon dont ils sont sélectionnés, puisqu'ils le sont sur le volontariat, et non pas sur le tirage au sort, mais de surcroît, il y a aussi un biais dans la façon dont les informations leur sont communiquées, puisque, effectivement, notamment pour la convention citoyenne sur le climat, les climato-sceptiques n'étaient représentés ni dans ce qui était présenté aux personnes présentes, ni probablement dans les personnes présentes. Donc, ça me pose une vraie difficulté. Et puis surtout, enfin, effectivement, en l'occurrence, je ne vois pas en quoi ça va mettre fin à la méfiance. Il me semble que des campagnes de communication scientifique, comme ça a été fait en Israël, par exemple, auraient été beaucoup plus efficaces pour permettre de mieux accepter ce vaccin. Est-ce que ça va répondre à d'autres questions sur la stratégie vaccinale ? Très honnêtement, je ne le crois pas.
Oui, mais est-ce que dans cette période où justement on a vu de l'importance d'écouter les scientifiques, à partir du moment où on estime qu'il y a un certain consensus large sur l'importance de la vaccination dans la lutte contre l'épidémie de Covid, tout comme il y avait un consensus large, on ne va pas faire le débat ici ce soir, il y en a déjà eu suffisamment, sur la question du réchauffement climatique, faut-il vraiment donner à part égale la parole à ceux qui sont sceptiques par rapport à ceux qui finalement vont dans le sens de la science ? Je pose là la question, évidemment, de la question de l'expertise, de la compétence. Est-ce qu'on ne fait pas litière de ces questions-là, l'expertise et la compétence, Jean Grosset, avec ce type d'initiative, et notamment en faisant monter presque artificiellement des paroles qui ne vont pas dans le sens de la science ?
Je ne sais pas comment on fait monter artificiellement des paroles.
En leur donnant la parole à part égale, par exemple, avec ceux qui vont plutôt dans le sens du consensus scientifique.
Non, mais attendez, dans ces cas-là, on ne consulte personne. Parce que c'est intéressant, la remarque que vous faites, comme la remarque qu'a fait Muriel Jourda à l'instant. Il y aurait une différence, c'est très intéressant, il y a une différence de perception des citoyens au niveau local, au niveau national. Donc au niveau local, on parlerait de choses qu'ils connaissent, au niveau national, c'est impossible. Alors pourquoi les partis se présentent au niveau national ? Mais il faut rétablir le suffrage censitaire dans ces cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Seuls les gens qui connaissent les questions, le principe des programmes nationaux aux élections politiques, présidentielles, c'est des programmes sur toute la société. Donc ça veut dire que les gens qui votent, il faut qu'ils connaissent tout. C'est une vraie discussion qui a traversé la France. Deuxièmement, il ne s'agit pas de donner la parole contre les scientifiques et tout. Il s'agit simplement d'élargir pour que cette communication des scientifiques puisse toucher le maximum de monde. Je vais poursuivre. Dans la Convention citoyenne, c'est inexact ce qui vient d'être dit. Sur chaque sujet, il y avait des controverses. Je prends par exemple les transports, se déplacer. Au moment où il y a eu un travail, il y avait le représentant de l'ADP des compagnies aériennes, il y avait des syndicalistes, il y avait des environnementaux. Lorsqu'on a discuté de la réflexion sur les automobiles, il y avait des représentants des entreprises privées, Renault ou Peugeot. C'est inexact. À chaque fois, nous avons eu le souhait de faire venir des points de vue contradictoires qui émettaient devant les gens rassemblés des points de vue contradictoires qui se fassent leur jugement. Donc c'est inexact. Ça, c'est un schéma qui plaît bien aux gens, qui veulent ridiculiser ce qu'on fait en disant, bien sûr, c'est un groupe de fanatiques qu'on a réunis dans un coin, on leur fait venir un certain nombre d'écolos radicaux et ils embarquent le morceau. C'est inexact. Excusez-moi de dire ça. Le CESE n'est pas bâti comme ça. Comment voulez-vous que ça soit accepté ? Nous avons au CESE, dans le groupe des entreprises, des femmes et des hommes qui représentent la métallurgie, le bâtiment, les transports. Ils vont accepter ça ? Nous avons des gens qui représentent EDF, ils vont accepter ça ? C'est inexact.
Alors, Laurent Chambeau, cette question de l'expertise, de la compétence, évidemment, elle se pose systématiquement dans ces questions de démocratie sanitaire.
Ben, oui, tout à fait, mais pour prolonger cette discussion, je pense que ce qui est surtout important, c'est que puissent se rencontrer les paroles et les points de vue. D'abord, y compris les points de vue des experts, parce que les experts, ils peuvent venir de disciplines et d'horizons très différents. L'épidémiologie qu'on entend beaucoup en ce moment, mais aussi les sciences sociales, l'économie, le droit, etc. Et puis, il faut des endroits où se rencontrent les experts, les professionnels, les élus, mais aussi le monde associatif et citoyen. Et le CESE en est un très bel exemple. Mais je rappelle encore que depuis 20 ou 30 ou 40 ans, ces endroits-là se mettent en place dans ce qui est la démocratie en santé. Et encore une fois, je regrette que dans des moments comme cela, ils ne puissent pas servir justement pour que cette rencontre puisse se faire, que ce soit la Conférence nationale de santé, les CRSA ou les conseils territoriaux de santé.
Mais alors justement, quel exemple donnent ces endroits sur la collaboration en quelque sorte, en tout cas leur relation entre experts, sachants comme on dit aussi parfois, et amateurs ou citoyens ?
Sachant, j'aime pas trop parce que tout le monde sait quelque chose, mais avec des modalités différentes. On parle aussi beaucoup chez nous, de ce qu'on appelle le savoir profane. C'est surtout que les points de vue puissent s'exprimer et que dans ce contexte-là, ce que l'on sait en termes de connaissances scientifiques puisse être approprié par le plus grand nombre. Et là, il faut le faire à tous les niveaux, que ce soit, encore une fois, au niveau local ou au niveau national, et il faut le faire tout le temps. Et je pense que ce que l'on vit aussi montre que, en ce moment et depuis 10 mois, et pas uniquement dans notre pays, montre qu'il faut absolument des instances de ce type-là, parce que c'est là aussi que l'on peut avoir tous ces leviers pour pouvoir faire des politiques qui soient les plus proches possibles des connaissances scientifiques et qui permettent aussi de développer ce que moi j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire une culture de santé publique large dans notre pays.
Muriel Jorda, est-ce que ce type de dispositif n'est pas aussi une façon de contrebalancer la forte homogénéité socio-économique de la représentation nationale ?
Oui, ça peut être le cas. Et en même temps, la constitution de ces comités, elle correspond aussi à une sociologie de la société. Enfin, en tout cas, ça a cette vocation, d'après ce que j'en ai compris, dans ce faux tirage au sort. Après, le niveau de connaissance de chacun, pour reprendre à la fois les propos de Monsieur Grosset, de Monsieur Chambaud, je crois que nous ne sommes pas aussi opposés que nous en avons l'air de ce point de vue. Moi, je pense, et je l'ai dit, extrêmement important, et c'est pour ça que c'est plus difficile sur certains sujets, que ceux qui prennent les décisions ont un niveau de connaissance important. Et je ne dis pas qu'il faut rétablir le suffrage censitaire, loin de là, d'autant plus qu'il était moins basé sur le niveau de connaissance que sur le niveau de richesse, me semble-t-il. Mais il est tout à fait certain que lorsque des citoyens accèdent à un certain niveau de responsabilité, c'est-à-dire sont élus, ils ont l'obligation, et c'est ce qui se fait tous les jours au Parlement, d'avoir un niveau de connaissance élevé, ce qui nous conduit, notamment quand j'ai rapporté le projet de loi sur le CESE, à procéder à un certain nombre d'auditions, et même à un nombre extrêmement important, pour avoir une vision d'un sujet qui soit tout à fait panoramique. Alors je suis très contente que ce soit fait dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, comme le dit Monsieur Grosset, et qu'on ait entendu un peu tout le monde. Le principe de départ tout de même a été que les climato-sceptiques ont été écartés. Bon, alors on peut s'en réjouir en disant ils n'ont pas le droit de parole. Moi je crois que c'est ça plutôt, voyez-vous, qui augmente la méfiance en France. C'est-à-dire qu'on estime que certaines idées ont le droit d'être débattues et d'autres sont d'emblée évincées du débat public. Donc, je ne suis pas loin de là contre l'intervention des citoyens d'une façon ou d'une autre. Et encore une fois, ils le font dans le cadre de l'élection. Mais encore faut-il qu'on ait le droit de débattre de tout, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, ce qui n'a pas été le cas dans les conventions citoyennes.
Bon, alors on ne va pas revenir sur la Convention citoyenne pour le climat, mais Jean Grosset, malgré tout, ça fait partie des expériences qu'on a aujourd'hui, tout comme les budgets participatifs, par exemple, sur la participation citoyenne sur des sujets complexes. Est-ce que ça fonctionne ?
Bah, écoutez, excusez-moi de revenir sur ce que j'ai vécu. C'est la première fois.
Oui, c'est vrai que sur la vaccination, ça commence aujourd'hui. La convention sur le climat, c'est terminé.
Non, mais je peux vous dire ça. On a fait autre chose. On a fait au moment de la crise des Gilets jaunes une commission temporaire avec 35 de citoyens tirés au sort qui venaient d'horizons divers et qui contribuaient à faire un avis que nous avions versé au moment du grand débat, faire un avis sur la crise que nous traversions. Et nous avions vu toutes les fractures, autre chose aussi d'ailleurs, je le signale parce que pour ce qu'est le CESE, au moment du début, cette fameuse pétition sur l'augmentation des carburants, une pétition était arrivée au CESE. Cette pétition était arrivée en indiquant qu'il se préparait des manifestations très graves. Nous l'avions signalé, mais peut-être que la démocratie représentative du CESE n'était peut-être pas suffisamment comprise à ce moment-là pour qu'on considère que c'était un vrai signal d'alarme. Donc pourquoi je me permets d'insister là-dessus, c'est que ce qu'a dit Monsieur Chambaud à l'instant est tout à fait exact sur la façon de... Je partage complètement le savoir profane. Comme on dit quelquefois au CESE, c'est l'expertise d'usage. C'est très important que des femmes et des hommes puissent avoir accès à un certain nombre de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'elles remplacent les élus. Au contraire, les élus sont élus. Nous-mêmes, nous ne sommes pas élus. Donc nous faisons des avis que nous proposons, c'est des éléments consultatifs.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui reprochent à cette démarche le risque de manipulation ? C'est-à-dire que ce serait une façon, par exemple, pour l'exécutif d'avoir à sa main directement des citoyens qui peuvent aisément manipuler en fonction des experts qu'il lui présente.
Excusez-moi, d'abord le CESE, le CESE est respectueux de la démocratie, est respectueux des élus. Et lorsqu'on lui demande quelque chose, quel que soit le gouvernement démocratiquement élu, parce que les gouvernements démocratiques, ils ferment les CESE, d'accord ? On a un souvenir quand même de quels sont les CESE qui sont fermés. dans tous les pays du monde d'ailleurs. Donc le CESE est un lieu tellement pluriel, avec des organisations qui sont tellement vigilantes sur l'indépendance, que c'est impossible. C'est impossible. À partir du moment où on donne au CESE une mission qui est de faire réfléchir un certain nombre de gens et les propres organisations, vous imaginez que le CESE n'est pas la courroie de transmission d'un parti, la courroie de transmission d'un gouvernement, quel qu'il soit. C'est impossible en France. Donc c'est un lieu de neutralité et qui construit des compromis. Donc c'est le lieu le plus adapté, si je puis dire, pour que un certain nombre de citoyens peuvent se travailler. Mais je termine sur une chose. Très souvent, les organisations du CESE, lorsqu'elles considèrent qu'elles existent, mais qu'elles ont de la marge, je pense aux syndicats que je connais bien, il y a de la marge. Hein. Les syndicats, ils sont représentatifs, mais il y a de la marge pour qu'ils le soient plus. Très souvent, ils s'adressent à d'autres gens. Lorsqu'ils veulent réfléchir sur des accords, sur des grandes questions, ils s'adressent à d'autres gens. Donc, si vous voulez, cette démarche, elle n'est pas extraordinairement nouvelle. C'est simplement sur un des aspects, une association plus large. Plus on discute, plus l'information arrive, meilleur c'est pour la démocratie.
Muriel Jourda, puisqu'on arrive au bout de cette conversation, est-ce que malgré tout vous attendez quelque chose de ce collectif citoyen? Est-ce que vous craignez qu'il soit manipulé, comme je viens de l'indiquer?
Alors, je n'ai pas de doute sur le fait que le CESE n'est pas dans l'idée de manipuler qui que ce soit. Mais d'ailleurs, c'est extrêmement difficile au regard de sa composition qui est plurielle, comme le dit Monsieur Grosset. Je ne vois pas quel peut être, encore une fois, le caractère représentatif de qui que ce soit de ces personnes. Donc, nous allons avoir un résultat, mais qui va-t-il engager? Et dans quel but? Et est-ce que ça aura amélioré de quelque façon que ce soit la stratégie vaccinale en France? Je n'en suis pas sûr.
Laurent Chambaud, un mot pour conclure sur cette question?
Moi, je dirais c'est un outil parmi d'autres du débat public, et je pense qu'il faut surtout le prendre comme ça, mais ça ne doit surtout pas résumer ce que peut être le débat public, ce que peut être aussi cette nécessaire confrontation au sens positif du terme entre les professionnels, les citoyens et les experts, et on a du chemin à faire dans ce sens-là.
Eh bien, merci beaucoup. Justement, ce chemin, on va continuer de le suivre et de regarder du côté de ce collectif citoyen sur la vaccination, puisqu'il commence juste aujourd'hui à se rencontrer. On en a pour plusieurs mois. Vous vouliez juste un mot, Jean-Gosset?
Même point de vue que Monsieur Chambaud. C'est un élément. Mais ce n'est pas la peine de focaliser dessus, parce que quand on focalise dessus, on a d'autres arrière-pensées.
Voilà, c'est une émission de débat, mais on arrive parfois à la fin à des éléments d'accord. Merci beaucoup, le temps du débat c'est terminé. Réécoutez podcast, c'est évidemment sur l'application de Radio France. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar, à la prise de son, Mickaël Simon. Merci beaucoup à Sam Boutata pour ça. Collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Lorota posera la question: le modèle allemand est-il un modèle Merkel? Et oui, on l'a entendu dans le journal tout à l'heure, Angela Merkel a désigné, j'allais dire, son successeur. Il y a eu un vote, mais bon, c'est son candidat qui l'a emporté. Donc voilà, c'est la question qu'abordera Emmanuel Laurentin lundi. Avant cela, prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain à 11h, l'Esprit public avec Émilie Aubry, en direct de l'Espace Cardin. Deux sujets: Trump-Johnson, l'échec du libéralisme sanitaire, et Sahel, Covid, économie, influence. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il en Afrique? Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.